Radio Kapi. Oh, Kapi.
Pour vous informer en ce midi, nous vous parlons en ouverture de ce journal de ce drame survenu vendredi à Butembo. Un immeuble s'est écroulé en s'éveillant des personnes qui, jusqu'alors certaines, demeurent dans les décombres pendant que l'administration urbaine s'affaire à réunir des moyens pour descendre sur les lieux. À suivre également dans ce journal, cette dispute de légitimité à l'Assemblée provinciale de la Tchopo qui empêche l'institution de fonctionner normalement. Les violents désaccords pas entre le président du bureau d'âge et celui de l'ancien bureau de l'Assemblée provinciale qui tiennent tous pour le perchoir de cette institution. Sharma Wandambi, chef du projet pour le compte de Paul Institute, est notre invité ce midi. Dans ce journal, il parle du projet de résolution des conflits à Beni et Ituri, financé par l'Union européenne. Merci de votre fidélité à Radio Okapi pour votre information, fidèles auditeurs. Restez toujours branchés pour en savoir davantage. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Billy Yvan Lutumba, la présentation de ce journal. Dans la ville de Butembo, une dizaine de morts et des blessés, tel est le bilan encore provisoire livré par des témoins depuis l'effondrement d'un immeuble de 4 niveaux en début de soirée de vendredi dernier sur l'avenue Matokeo dans la commune Vulamba. L'autorité urbaine qui est arrivée sur place ce dimanche appelle la population au calme. Elle n'a pas encore confirmé ce bilan. Détail dans ce reportage rendu par Alain Hirong.
Nos sources parlent d'une quarantaine d'ouvriers qui exécutaient les travaux de construction d'un immeuble situé dans la cellule Maman Moussaï, proche de la division provinciale de la santé, DPS Antenne de Butembo. Alors qu'il était à son 4e niveau, l'immeuble s'est effondré, causant mort d'hommes et des blessés. Certains habitants qui étaient sur le lieu ont pu s'échapper. L'origine de cet effondrement n'est pas encore connue. Depuis lors, la population ainsi qu'une entreprise de construction appartenant à un opérateur économique s'active jour et nuit pour dégager d'autres personnes coincées dans les décombres. Contacté par Radio Okapi, le commissaire supérieur principal Moabae Kiteli Roger, maire de Butembo, qui est arrivé sur le lieu du drame ce dimanche, accompagné d'autres leaders communautaires locaux, salue cet engagement de ses administrés pour sauver des vies humaines. Il affirme toutefois que le gouvernement provincial du Nord Kivu ainsi que certains élus ont contribué avec une somme importante d'argent pour que les travaux de fouilles se déroulent sans s'arrêter. Tout en présentant ses compassions à la population, la coordination urbaine de la société civile de Butembo s'insurge contre le retard avec lequel les autorités sont intervenues. Elle estime que certaines victimes auraient pu être sauvées le même vendredi.
Notez que Van Germain Katiwa, premier vice-président de cette structure citoyenne, appelle le gouvernement congolais à doter le service de la protection civile des outils nécessaires afin de parer à toute éventualité. Jusqu'à présent, une grande foule est présente sur les lieux du drame où les travaux de fouilles se poursuivent. Presque dans le même sens, l'Ordre national des architectes, ONA, appelle les autorités de la RDC à faire appliquer les lois en matière de construction afin d'éviter l'effondrement des bâtiments tel que arrivé la semaine dernière à Bukavu et vendredi encore à Butembo. Achille Maté, secrétaire général de l'ONA, a lancé cet appel hier samedi au cours d'un point de presse. Achille Maté est au micro de Paul Matendo.
Aujourd'hui, dans notre pays, on ne sait pas dire si les constructions sont en sécurité. C'est-à-dire que on construit les bâtiments, les gens habitent ces bâtiments, mais personne ne peut garantir la sécurité des personnes qui y vivent. Donc, nous déplorons cet état des choses, mais malheureusement, faute des contrôles, tout le monde construit. Ce que nous demandons, nous, Ordre des architectes, nous demandons au gouvernement de ne faire qu'appliquer la loi. Aujourd'hui, pour construire, il y a une procédure qui est fixée par la loi. Avant de commencer la construction, il faut avoir une autorisation de bâtir. Une autorisation de bâtir s'octroie après présentation d'un dossier. Et ces dossiers-là, il y a des conditions. Ce sont des plans qui doivent être faits par un architecte inscrit à l'ordre. Ce sont des plans qui doivent aussi être faits, en tout cas au niveau de la stabilité, par un ingénieur civil inscrit à l'ordre des ingénieurs civils. Et ensuite, il y a des frais administratifs à payer. Mais les contrôles en amont voudraient qu'on vérifie si la personne qui a établi les plans, est-ce qu'il dispose des compétences.
Actualité politique dans la province de la Tchopo, la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale convoquée par le président du bureau d'âge le samedi 26 août courant n'a pas eu lieu comme initialement annoncé. Pour cause, la dispute de légitimité de cette première institution politique provinciale entre le président du bureau d'âge et celui de l'ancien bureau de l'Assemblée provinciale Gilbert Bokungu. En effet, alors que les médias locaux ont relayé le communiqué du bureau d'âge convoquant cette session extraordinaire pour ce samedi à 10h de son côté, l'ancien bureau a publié la veille un communiqué contraire, puisque ne reconnaissant pas le bureau d'âge qui a convoqué cette session. Une véritable cacophonie à l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Les explications avec Jacques Mkonkole.
Le désordre qui a prévalu à l'organe délibérant provincial de la Tchopo était prévisible, puisque le président de l'ancien bureau, Gilbert Bokungu, n'a jamais accepté son éviction par une frange de députés provinciaux, dont trois membres de son propre bureau sur les cinq qui les composent. Voilà qui justifie la non-tenue de la session extraordinaire du mois d'août, convoquée par le bureau d'âge présidé par Jean-Pierre Litema. Pour matérialiser son opposition à la tenue de cette session, l'ancien bureau a obstrué l'entrée de l'hémicycle. À cet effet, une voiture y a été placée. Aux alentours du bureau, un important dispositif sécuritaire était positionné pour parer à toute éventualité. Entre-temps, les deux camps se sont tiraillés pendant plusieurs heures jusqu'à la fin de la journée. Au regard de ce spectacle désolant, tous les invités se sont retirés. Justifiant son attitude, l'ancien bureau dit ne pas reconnaître le bureau d'âge et attend convoquer une session plénière devant investir le nouveau gouvernement provincial. Pour sa part, le président du bureau d'âge déclare avoir saisi la justice pour une solution urgente. Jean-Pierre Litema compte par ailleurs organiser cette session à un autre lieu, conformément, selon lui, à l'article 6 du règlement intérieur de cet organe. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
En réaction à ce désordre observé à l'Assemblée provinciale de la Tchopo, le vice-ministre de l'Intérieur inscrit dans une correspondance la gouverneure de cette province à prendre toutes les dispositions en instruisant les services de l'ordre et de sécurité afin que, je cite, toute plénière convoquée dans cette situation de confusion de nature à porter atteinte à l'ordre public ne soit organisée au sein de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale ou à tout autre endroit jusqu'à nouvel ordre. Fin de citation. Autre nouvelle dans la province de l'Ituri. Les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité lancent un appel aux groupes armés à déposer les armes pour le bon déroulement des élections dans cette province et au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent pour endiguer tous les obstacles au quatrième cycle électoral. C'est dans une déclaration commune faite samedi à l'issue d'un atelier de réflexion sur le processus électoral apaisé en Ituri. Cette activité qui a duré 2 jours était organisée par la section des affaires politiques de la MONUSCO.
Plus de 75 partis politiques de l'Union sacrée et de l'opposition étaient représentés à ces assises. Pendant 2 jours, les participants ont échangé notamment sur les dangers pour des élections apaisées en Ituri et leur implication pour l'accompagnement des institutions de la République dans ces processus. Parmi les obstacles, ils ont relevé l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Ils demandent aux fils égarés de déposer les armes et de rejoindre les programmes de désarmement et au gouvernement de traquer les forces négatives, notamment les rebelles des ADF à l'est de la RDC. Un extrait de leur déclaration lu par Honoré Lubumba du Front commun pour le Congo.
Les échéances électorales à venir doivent interpeller notre responsabilité. Nous exhortons nos frères et sœurs des groupes armés de cesser les hostilités, de déposer les armes et s'approprier les processus électoraux en préparation pour le bien et le développement de notre chère province.
Le vice-gouverneur qui a présidé cette activité a déclaré que le gouvernement a mis tous les mécanismes en place pour imposer la paix à l'est de la RDC. Cependant, cela nécessite l'implication de tous les acteurs politiques et de la société civile, a-t-il ajouté Benjamin Alongaboni.
Nous allons ménager aucun effort pour remplir notre mission, c'est de restaurer l'autorité de l'État en Ituri et instaurer la paix. Mais cette paix-là, elle se fait en synergie.
Bounia Isakre Moyope, Radio Okapi.
La guerre a échoué. Cette affirmation est le titre d'un livre paru aux éditions Mlimani de Goma le mois dernier. Écrit par un enfant de cette ville, témoin de plusieurs guerres, Micheline Mwendike estime que la solution à la crise actuelle en RDC passe par un processus, celui de remettre les revendications sur la table et de trouver les moyens d'y répondre. Pour elle, même si les revendications peuvent être légitimes, la guerre ne sera jamais la réponse car elle tue aussi la revendication qu'elle est censée porter. Et depuis 3 décennies maintenant, la population du Nord Kivu est victime des guerres qui se suivent, sans qu'aucune d'elles n'apporte de réponse à ses réelles revendications. Pour Micheline Mwendike, il est maintenant temps de couper le cordon avec la violence. Elle est au micro de Rosalie Zawadi.
Pour moi, les guerres que j'ai vécues, en tout cas, n'ont jamais pris fin. Et les grandes guerres, les guerres les plus meurtrières, elles effacent les moins meurtrières. Il y a plus de 200 groupes armés au Congo, mais on ne les connaît pas tous par nom. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît qu'il y a les ADF parce qu'ils sont le premier tiers. On connaît qu'il y a les M23 parce qu'ils occupent aujourd'hui un territoire et qu'ils font aussi une guerre diplomatique. Mais cela n'efface pas la guerre qui se trouve à Walikale, dans le Lubero. C'est important de savoir cette dynamique si on veut s'occuper de la situation de la guerre au Congo. C'est important de comprendre et de rechercher où est la revendication. Et aujourd'hui, nous devons couper le cordon avec la violence si nous voulons arriver à des solutions. Nous devons arrêter de juger celui qui revendique. Et nous devons nous dire pourquoi il revendique et comment répondre à cette revendication.
Signalons que ce livre est disponible dans les principales librairies de Goma, Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Beni et Anituri. Affaire massacre de Yumbi en 2018 dans la province du Maïndombe, un avocat hausse le ton et dénonce le fait que jusque-là, les auteurs de ces tueries, qui sont déjà bien identifiés, ne répondent pas encore de leurs actes devant la justice. Il s'agit bien de maître John Lopanza, natif du territoire de Yumbi. Dans un entretien avec Radio Okapi hier samedi, ce dernier déplore cela et invite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à s'impliquer dans ce dossier pour que la justice soit faite. Le point avec Irène Beaumont.
Près de 4 ans après les affrontements intercommunautaires qui ont éclaté dans plusieurs localités du territoire de Yumbi entre les peuples Nounou et Tende, ayant occasionné le massacre de plusieurs centaines de personnes pour la plupart de l'ethnie Banounou Bobangi, la justice n'est toujours pas rendue en faveur des victimes. Maître John Lopanza, un avocat natif de Yumbi, regrette cela et sollicite l'implication personnelle du chef de l'État pour la condamnation des auteurs de ces crimes odieux.
À notre regret, toutes les structures qui avaient enquêté sur la faire, notamment à Cage. Elles avaient dressé un rapport commun faisant état des identités des commanditeurs. Ceux qui ont donné des armes, des munitions, des mots d'ordre pour tuer les peuples Nounou sont bien identifiés. Et aujourd'hui, ils sont libres et vrais même au sein des institutions de la République. C'est ainsi que nous demandons l'implication du chef de l'État pour que la justice soit faite, car la justice élève une nation.
Maître John Lopanza plaide aussi pour le rapatriement des milliers de peuples Banounou Bobangi réfugiés au Congo-Brazzaville et vivant dans des conditions inhumaines. Rappelons qu'au moins 530 personnes ont été tuées, des centaines de maisons incendiées et pillées et des centaines de blessés graves ont été signalés lors de ces violences d'après les rapports des Nations Unies. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis cette bonne nouvelle pour les opérateurs économiques œuvrant dans l'importation au Congo central. Le transfert des conteneurs de marchandises sous douane vers Kinshasa vient d'être modernisé. L'Office congolais des contrôles vient d'informatiser ce circuit en mettant en place une application de gestion et suivi des marchandises en transfert sous douane. Parmi les objectifs, il y a notamment la lutte contre la fraude, affirment les responsables de cette entreprise. Au lancement de cette application ce samedi 27 août à Matadi, le responsable de la direction provinciale de l'OCC Kinshasa, Otto Katoka Tchek, qui s'est livré à cet exercice, a indiqué que cet événement est aussi bien avantageux pour cette entreprise que pour les importateurs. Le point avec Nana Plurich Mambo.
Transfert.occ.cd, c'est les liens que l'OCC vient de lancer pour accéder à l'application de gestion et de suivi des conteneurs de marchandises à transfert sous douane vers Kinshasa. Cette innovation met ainsi fin à la gestion manuelle durant plus d'une décennie de cette opération qui, du reste, avait des conséquences néfastes, comme l'affirme le chef de direction provinciale de l'OCC Kinshasa, Otto Katoka Tchek.
Il se dégage souvent des écarts importants entre les conteneurs partis de Matadi vers Kinshasa et les conteneurs réellement réceptionnés à Kinshasa. L'autorité voulait fluidifier le suivi de ces conteneurs-là.
Les partenaires de l'OCC, dont la Fédération des entreprises du Congo FEC, l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane ACAD et qui ont représenté les opérateurs économiques, saluent cette initiative de l'OCC qui vient répondre à la question liée à la fraude. Joseph Makaya est le vice-président de l'ACAD.
Il y aura un code secret pour chaque commissionnaire en douane. Nous n'aurons plus à assister à des faux bordereaux. Avec cette application, il n'y aura plus de détournement des conteneurs.
Avant de lancer cette application, l'OCC a formé ses agents impliqués dans les circuits d'importation ainsi que les opérateurs économiques via les commissionnaires agréés en douane, la FEC et les déclarants en douane sur le fonctionnement de cette application. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Cette autre nouvelle du Maniema avant de passer à la page internationale. Dans le cadre du partage des technologies apprises au Brésil afin d'aider les producteurs à améliorer leur production tout en protégeant l'environnement, l'ONG Solidarité Féminine a organisé samedi 27 août à Kindu un atelier de restitution de la formation sur le renforcement des techniques socio-environnementales au profit des petits agriculteurs en RDC. Cette formation à laquelle la province du Maniema a été représentée a pris part s'est tenue au Brésil du 1er juillet au 6 août dernier. On écoute la présidente de l'ONG Solidarité Féminine, Nathalie Kapunga, au micro de Florence Kizalunga.
La République démocratique du Congo et la République fédérale du Brésil ont signé des partenariats à travers l'Agence brésilienne de coopération et le ministère congolais de l'agriculture en vue de faire face au réchauffement climatique et d'assurer une alimentation saine, sécurisée et durable. Ce partenariat est établi pour le renforcement des capacités et les échanges d'expériences dans le domaine d'agroécologie, tout en visant un impact socio-économique positif et durable. C'est dans ce cadre de la mise en œuvre de ces projets que l'ONG Solidarité Féminine, à travers ses deux délégués, est allée suivre la formation au Brésil. D'aucuns ignorent que la formation est une condition sine qua non pour mener à bon escient les activités agricoles. Ainsi, les thèmes concernés par la dite formation sont les suivants. La production de biofertilisants, biopesticides, le coopérativisme et associativisme, la lutte contre les bioagresseurs et l'érosion du sol, la production de biocharbon.
Actualité internationale.
Signature d'un partenariat renouvelé entre Emmanuel Macron et Abdelhamadjid Tebboune sur fond d'ambassade. À Alger, samedi, la France et l'Algérie ont posé les bases de la relance de leur coopération après la brouille diplomatique autour de la mémoire de la guerre d'Algérie. Même si la matérialisation de l'engagement n'est pas sans appréhension, mais au terme de la visite d'Emmanuel Macron dans son pays, le chef de l'État algérien a plutôt brandi la carte d'un nouveau départ.
L'invité.
Soutien à la médiation pour la résilience et la paix à Beni au Nord Kivu, c'est un projet financé par l'Union européenne à hauteur de 5 millions d'euros pour 10 mois. Ce projet sera mis en œuvre par un consortium des deux ONG, Paul Institute et Interpeace. Il a été présenté aux bénéficiaires au cours d'un atelier de 2 jours à Beni qui s'est clôturé jeudi dernier. Sharma Wandambi, chef du projet pour le compte de Paul Institute, explique dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar.
Sharma Wandambi, bonjour.
Bonjour, merci.
Qu'est-ce qu'on peut comprendre du projet soutien à la médiation pour la résilience et la paix?
En fait, le projet soutien à la médiation pour la résilience et la paix, c'est bien sûr un programme financé par l'Union européenne pour une durée de 18 mois et qui doit être implémenté à Beni en Ituri. C'est pour venir d'abord identifier les différents conflits susceptibles de faire objet de médiation. Le projet est parti du constat selon lequel il y a beaucoup de conflits qui sont en train d'être identifiés, mais je peux me permettre d'en parler, notamment de conflits fonciers, de conflits de coutumes, de conflits de leadership entre certains leaders,
conflits des limites administratives.
Conflits des limites administratives et autres choses. Et dans le cadre de ces projets, bien sûr, après les avoir identifiés, toutes nos interventions vont aller dans le sens de résolution de ces différents conflits par la voie de médiation et du dialogue, bien sûr, passant par la mise en place de certaines structures qui vont chaque fois réfléchir autour de contextes. Il y aura des séances de formation, des capacitations et il y aura aussi, bien sûr, des séances, notamment des plaidoyers, aussi bien au niveau local, provincial, national que même régional, afin de se rassurer que la plupart des conflits majeurs qui seront identifiés soient résolus suivant notre approche.
Vous pensez que tous ces conflits que vous venez d'énumérer là constituent un problème dans notre région? Et si c'est vrai, quel type de problème?
Évidemment, nous avons mené d'abord des études de base et à l'issue de ces études, il a été démontré que ces conflits constituent un sérieux problème. Par exemple, vous l'avez attendu, le conflit limite entre la ville de Beni et le parc de Virunga, qui a créé même de morts d'hommes, qui a créé des arrestations arbitraires, et jusqu'aujourd'hui, il y a des tollés entre les camps étatiques et les camps de la population. Ce sont des sérieux problèmes. Donc, ce sont des problèmes, même si c'est pas à nous de les identifier. Par exemple, la séance d'aujourd'hui du lancement, nous avons appelé toutes les parties prenantes pour qu'elles identifient d'une manière libre ces conflits.
Parties prenantes, là, vous entendez
Nous attendons les autorités coutumières de toutes les entités des Beni territoires, l'administrateur du territoire, le maire de ville, les bourgmestres du niveau urbain que du niveau rural, les acteurs de la société civile, les acteurs de la jeunesse, les structures, des femmes, les leaders politiques, les leaders religieux, bref, toutes les couches de la population qui peuvent avoir des pensées à avancer par rapport à la résolution des conflits et qui peuvent aussi être impliquées dans la résolution de ces conflits. On les a vraiment conviés à ces assises.
Il y a des conflits qui ont atteint un stade assez avancé. Pensez-vous que seule la médiation va régler ces différents conflits ou bien il y a une étape qui peut aller jusqu'à des instances judiciaires?
Évidemment, comme je l'ai dit, nous, notre programme se limite d'abord à la médiation. Donc, l'étape de conflit qui peut encore nécessiter la médiation, c'est à ces niveaux-là que nous allons intervenir. Et lorsque ça nécessite une autre étape, une autre intervention autre que la médiation, nous avons un système de référencement où nous serons en train de référer tel conflit soit à l'appareil judiciaire, notre, soit à un autre mécanisme de résolution. Nous, nous limitons seulement sur les conflits susceptibles d'être résolus par la voie du dialogue ou de médiation.
Il n'y a pas longtemps, vous avez exécuté notre projet des dialogues démocratiques financé notamment par le Fonds de stabilisation de la MONUSCO. Pensez-vous que le dialogue démocratique n'était pas suffisant pour régler les conflits, pour que vous puissiez entreprendre d'autres projets avec médiation et peut-être aller au-delà?
Le dialogue démocratique d'abord n'était pas venu pour résoudre le conflit. L'objectif c'était de créer un climat de rapprochement entre la population ainsi que les autorités pour identifier ensemble les problèmes liés à la paix, à la sécurité, à la protection et voir dans quelle mesure on peut les résoudre ensemble. Alors, une fois identifié des problèmes, on s'est rendu compte à l'occasion du dialogue qu'il y a aussi des conflits qui peuvent nécessiter un autre programme. C'est comme ça que nous avons aussi fait appel à ce projet pour venir accompagner ces différents problèmes, pour s'assurer qu'on les résolve aussi, notamment par la voie de médiation.
Et dans le cadre de la mise en œuvre, je vois l'intervention du programme de désarmement, de mobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. En quoi cela est important dans le cadre de la résolution des conflits?
Son importance, vous savez que notre projet, par exemple, intervient dans le cadre de la stabilisation. Or, qui dit stabilisation, c'est qu'il y a un patron étatique en RDC de tout ce qui concerne la stabilisation, c'est PDDRCS. Et on peut vraiment incontournablement pas parler de stabilisation dans la région sans pour autant impliquer ses partenaires clés. Et c'est pour cette raison-là que nous avons fait appel aux partenaires de PDDRCS pour qu'ils viennent suivre au quotidien tout ce que nous sommes en train de faire dans ce cadre pour possiblement nous entraider, eux et nous, le cas échéant.
Les projets financés par l'Union européenne. On peut savoir à quelle échelle?
Le projet est financé à l'échelle de 5 millions d'euros. Et 5 millions d'euros, c'est pour Beni Ville, Beni Territoire et les différents territoires de la province de l'Ituri.
C'est charmant, Wandambi. Merci.
Je vous en prie. Merci, messieurs les journalistes.